Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, selamat malam. Comment allez-vous? Apa kabar? Voici l'émission langue française de l'Indonésie de Jakarta, l'émission de lundi 18 octobre 2016 avec moi, Muhammad Suartono. Nous avons déjà arrangé le programme pour vous emmener vos activités ce soir à peu près une heure. Comme d'habitude, notre programme sera commencé avec les informations du jour, qui se composent avec les actualités du jour, le point de vue, et aussi la mise en point et le jour de l'histoire. Et après ça, il y a trois magazines. Le premier, c'est le magazine de la culture, suivi avec le magazine Bahasa Indonesia ou Apprendre la langue indonésienne. Et la dernière, c'est le magazine de musique. Chers auditeurs de La Voix de l'Indonésie, si vous voulez écouter notre émission, vous pouvez écouter aussi par le streaming avec www.voi.co.id ou bien avec le en cours sur la fréquence 9525 kHz. Et si vous entrez notre adresse pour communiquer et pour avoir des informations plus complètes, vous pouvez envoyer vos lettres. Voici notre adresse, La Voix de l'Indonésie, boîte postale 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Je répète, La Voix de l'Indonésie, boîte postale 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Ou bien vous pouvez aussi, s'il y a de site l'internet, vous pouvez envoyer avec votre lettre électronique par l'email. Bien sûr, vous devez visiter notre website sur www.voi.co.id. Bon, chers juridiques auditeurs de La Voix de l'Indonésie, voilà notre sommet du jour. Et maintenant, allez écouter le premier programme, c'est les informations de La Voix de l'Indonésie de Jakarta.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Chers juridiques auditeurs de La Voix de l'Indonésie, voici les actualités du jour. Le titre du jour se compose avec l'institution de radiodiffusion publique doit éduquer la nation. Le président indonésien Joko Widodo visitera la Thaïlande pour exprimer ses condoléances. Le membre du Parlement pousse le développement de bases navales à Natuna. La mer possède des ressources importantes qui doivent être préservées. L'Indonésie se félicite de la conférence Habitat avec le grand espoir. Chers juridiques auditeurs, voici le contenu complet. L'Institut de radiodiffusion publique doit revitaliser les modèles du plan d'émission en concentrant les efforts sur le plan intellectuel pour la société. Le membre du Conseil d'administration publique de la Radio République Indonésia, Freddy Ndolu, mardi à Nusa Dua, Bali, a dit au moins trois tâches principales confiées à chaque contenu de diffusion. Ce sont d'éduquer, d'informer et divertir. Il encourage l'ensemble des institutions de radiodiffusion publique des États parties à la 53e Assemblée générale de l'Union de radiodiffusion de l'Asie-Pacifique en 2016 pour accroître les efforts pour sensibiliser le public à travers du motif de diffusion ayant de valeur éducative.
Revitalize World Public Service Broadcast. Ada tiga kata.
La revitalisation du service de radio diffusion public, trois mots clés, éduquer, informer et divertir. Ne nous concentrons pas notamment la divertir. Tout doit éduquer, éduquer la nation. Car dans l'éducation, on trouvera le divertissement. Notre tâche est éduquer la nation. Cela fait partie de la responsabilité sociale. Notre responsabilité sociale, alors que devons-nous faire dans cette assemblée pour revitaliser et redéfinir ces trois mots-clés? Nous concentrons-nous à tous les trois, étant donné que les radiodiffuseurs privés sont déjà plus avancés. La mise en œuvre de la 53e Assemblée générale de l'Union de radiodiffusion de l'Asie-Pacifique est l'occasion d'échanger des idées et des expériences pour les pays participants. Les sujets qui seront la discussion principale, entre autres, sont sur les possibilités pour les radiodiffuseurs publics d'avoir les droits de diffuseur, les compétitions sportives internationales, d'encourager la participation des femmes, y compris dans les festivals de la chanson à la télévision. Il y avait aussi la discussion sur les défis sur le changement climatique et la diversité des médias et les défis des radiodiffuseurs publics à l'ère digitale. Le vice-président Yusuf Kalla a dit que le président indonésien Joko Widodo avait prévu la visite en Thaïlande cette semaine. Le chef de l'État prononcera l'expression directe de condoléances sur le décès du roi Bhumipol Adulyadej en Thaïlande. Le vice-président Yusuf Kalla, au bureau de l'ambassade de la Thaïlande à Jakarta, a exprimé lundi que le roi Bhumipol a fait une relation étroite avec l'Indonésie depuis l'époque du président Sukarno. Il espère que les relations entre l'Indonésie et la Thaïlande ne seront pas changées, bien que le roi Bhumipol soit déjà décédé. Rapporté plus tôt, Bhumipol était décédé jeudi le 13 octobre 2016, à l'âge de 88 ans. Il est le monarque dont le règne durait le plus long dans le monde, après qu'il a fait installer le trône de la Thaïlande en 1946. Le membre de la commission 1 de la Chambre de représentants du peuple, Martin Hutabarat, attend l'armée nationale indonésienne pour construire des bases militaires pour garder la zone maritime de Natuna de la cible d'un pays étranger. Selon Martin Hutabarat, le gouvernement devrait déterminer vite la construction des bases dans la zone maritime de Natuna car il est très vulnérable aux perturbations par le trafic élevé de navires, les navires militaires et les navires commerciaux des pays étrangers entre les États. Il a souligné que même si Natuna n'est pas impliqué dans le conflit dans la mer de la Chine méridionale récemment, mais il est nécessaire d'anticiper l'impact de ce conflit. Martin Hutabarat espère que le ministère de la Défense et des avant-postes de forces armées construisent leur base pour garder les eaux de Natuna. En outre, l'Indonésie doit également fournir des informations à la communauté mondiale qui se concentre actuellement sur les actions des Chinois dans la mer de Chine méridionale par rapport que la zone maritime doit rester sécurisée et pacifique. Chers juridiques auditeurs, vous écoutez toujours les actualités du jour. L'Indonésie a très riche de ressources marines qui doivent être conservées au maximum. Celles-ci doivent bien adopter pour le bénéfice et le bien de l'humanité. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'Institut indonésien des sciences LIPI, Iskandar Zulkarnain, à propos de l'inauguration de la formation de la biodiversité marine et la santé de l'écosystème au centre de recherche d'océanographie LIPI à Ancol, Jakarta du Nord, lundi. La mer est une ressource précieuse, surtout non seulement pour l'humanité, mais sert aussi à notre planète. Nous sommes tributaires de la mer à partir de la nourriture que nous mangeons, du domaine des ressources halieutiques. La mer est également importante pour le transport, les loisirs et les activités culturelles. Donc, il est important pour nous de comprendre l'océan ou la mer afin de garder notre service de créateur. En outre, Iskandar Zulkarnain a dit que l'Indonésie, en tant que le pays d'archipel ayant le littoral tropical avec le long de plus de 54 000 km ou le deuxième plus long après le Canada, doit bien en profiter. De plus, selon Iskandar, l'Indonésie doit encourager la capacité des ressources humaines dans le domaine de la marine. La dernière, l'Indonésie a envoyé la délégation dans la Conférence des Nations Unies UN Habitat 3 à la relative au logement public et urbain qui est commencée 17 au 20 octobre 2016 à Quito, l'Équateur. Le ministre de la Travaux publics et du logement, M. Basuki Hadi Mulyono, comme chef de délégation indonésienne, a déclaré « La tentation de développement de colonies et d'urbains à présent et l'avenir en Indonésie sera plus grave étant donné au niveau et le rythme de l'urbanisation immense. » Le ministre Basuki Hadi Mulyono à Quito a déclaré lundi qu'à présent, au moins de 53% de la population de l'Indonésie vivent dans la zone urbaine, tandis que la zone rurale continue de connaître une croissance et certaines ont été transformées en villes. Il a aussi ajouté que la présence de la délégation indonésienne à Quito afin d'escorter le nouvel ordre d'urbain. L'Indonésie est active depuis le début de la formation du nouvel agenda urbain, y compris accueillir comme l'hôte de la troisième réunion du comité préparatoire à Surabaya, 25 jusqu'au 27 juillet 2016. Il a expliqué qu'en Indonésie concerne la mise en œuvre de l'habitat 3 des Nations Unies pour l'établissement de l'orientation de la politique et le développement des programmes et des établissements urbains pour 20 années prochaines en Indonésie. Et aussi à savoir la création des villes qui sont inclusives, productives, vertes, intelligentes, résilientes à la base de certains critères d'urbain et concepts durables. Le président Joko Widodo demande la réalisation des infrastructures électriques en Papouasie et de Papouasie occidentale doivent être terminées en 2019. Cela a été déclaré par le président lors de l'inauguration de 6 infrastructures d'électricité à Sentani à la ville Jayapura, Papouasie lundi. Selon président Joko Widodo, la condition naturelle de l'île de Papouasie est dure, mais il n'est pas de raison pour terminer le projet d'infrastructure rapidement. Le président a demandé au président directeur de compagnie d'État électricité, PLN, d'avancer l'objectif d'achèvement des projets d'infrastructure d'électricité en Papouasie. Le président a également souligné l'accélération de l'infrastructure non seulement pour l'électricité, mais aussi en ce qui concerne la connectivité interdistrict. Chers juridiques auditeurs, c'était les actualités du jour.
La Journée internationale pour la réduction de la pauvreté est célébrée chaque année le 17 octobre dans le monde entier. Bien qu'elle ait été officiellement reconnue par l'ONU en 1992, mais le premier avertissement a eu lieu à Paris, en France, en 1987. 100 000 personnes se sont rassemblées dans la Plaza des droits de l'homme et des libertés à Trocadéro pour honorer les victimes de la pauvreté, la faim, la violence et la peur à l'initiative de Joseph Resinski, le fondateur du mouvement international ATD du quatrième monde. pour la nation indonésienne, vous par World Fact Book, l'Institut social d'Indonésie et la Banque mondiale au niveau global, la diminution du nombre de pauvretés est la plus rapide parmi d'autres pays. Enregistrée entre 2005 et 2009, l'Indonésie est en mesure d'atteindre un taux moyen de diminution du nombre de pauvretés de 0,8% par an. L'Indonésie a réalisé depuis longtemps l'attentat de réduction de la pauvreté, puisque la nation de l'Indonésie était frappée par la crise économique majeure au niveau national en 1998, qui a donné l'impact de l'augmentation de la pauvreté. Le gouvernement a ensuite pris des mesures définies pour réduire la pauvreté comme l'une des priorités du gouvernement indonésien. Désormais, les Indonésiens sont toujours offerts des statistiques controversées sur les hauts et les bas de la pauvreté. Le succès du gouvernement de réduire la pauvreté n'est pas facile. Des fois, les résultats étaient différents que le plan. La pauvreté est partout. Le gouvernement peut déclarer qu'il a eu une baisse des taux de pauvreté, mais il existe beaucoup de douteuses de cette revendication. Même le fait, au contraire, les pauvres en Indonésie a l'air encore en hausse. Il semble que l'on ne peut pas mettre fin à ce débat. De plus, quand chacun possède des sondages et des chiffres légitimes sur ce problème, le plus important pour nous tous est de faire une synergie réelle pour lutter contre la pauvreté et de ne pas y controverser pour l'objectif politique. Car on sait qu'il existe beaucoup d'hommes politiques qui profitent de ce sujet pour gagner la sympathie en tant que gagner la domination de la faute. Chers auditeurs, voilà le commentaire d'aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, on se voit dans la rubrique L'Histoire d'aujourd'hui. Le 18 octobre 1912. L'Italie et l'empereur ottoman de la Turquie ont signé la traité de paix. Le 18 octobre 1912. L'Italie et l'empereur ottoman de la Turquie ont signé la traité de paix à Lausanne, Suisse, pour mettre fin à la guerre entre eux. En vertu de cet accord, l'Ottoman doit rendre la Libye pour l'Italie, où, en un précédent, l'Italie a géré son attaque. Auparavant, les forces ottomanes occupant la Libye ont réussi à gagner, mais enfin ils se sont rendus aux forces de l'Italie et la Libye a été occupée par l'Italie. La nation libyenne, alors, pendant des années, luttait contre l'occupation italienne. Après les changements politiques, après la Seconde Guerre mondiale, la Libye était contrôlée par la France et le Royaume-Uni. Enfin, en 1951, la Libye a gagné son indépendance. Le 18 octobre 1931, Thomas Alva Edison est décédé. Thomas Alva Edison est un inventeur, scientifique et homme d'affaires américain. C'est sûrement le plus grand inventeur de tous les temps. Edison a développé de nombreux appareils qui ont eu une très grande influence sur la vie courante dans le monde entier, comme le phonographe, la caméra de cinéma et un type de lampe électrique à incandescence de durée suffisante pour avoir une utilisation pratique. En 1890, Alva Edison a créé une entreprise General Electric. Le 18 octobre 1991, l'indépendance de l'Azerbaïdjan. Le 23 septembre 1989, l'Azerbaïdjan était l'un des premiers pays qui a pris l'initiative à mettre fin au règne de l'Union soviétique. Afin de supprimer la séparation avec la puissance de l'Union soviétique, le 20 janvier 1990, avec l'approbation des directions soviétiques sous Mikhail Gorbatchev, les unités de l'armée soviétique ont été envoyées à Bakou, en Azerbaïdjan. L'invasion de l'armée soviétique a causé des centaines de morts au peuple d'Azerbaïdjan. Une situation d'urgence a été immédiatement déclarée et continuée jusqu'à la mi-1991. La lutte sans cesse des combattants patriotiques azerbaïdjanais a continué pour finalement produire la déclaration du Conseil suprême de la République d'Azerbaïdjan du 31 août 1991 sur la restauration de l'indépendance de la République d'Azerbaïdjan. Cette déclaration a établi l'indépendance officielle de la République d'Azerbaïdjan le 18 octobre 1991. Le 18 octobre 1996, la France adopte le numéro de téléphone à 10 chiffres. À 23 heures, la France métropolitaine est désormais découpée en 5 zones de numérotation et le nombre de chiffres passe de 8 numéros à 10. France Télécom instaure ce système pour répondre à l'augmentation croissante des usagers. Chers amis, voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs et auditrices, on se revoit encore avec moi, Wimonata Kusuma, dans la rubrique de la mise au point. Le thème d'aujourd'hui est le Trade Expo Indonésie 2016 devient la résurrection du marché d'exportation d'Indonésie. Donc, restez toujours avec nous sur www.voi.co.id. Chers auditeurs, une exposition internationale du commerce, Trade Expo Indonésie ou TEI 2016, qui a eu lieu le 12 au 16 octobre 2016, a officiellement fermé et elle est devenue une étape importante dans l'augmentation des exportations indonésiennes au milieu de la faiblesse de l'économie nationale. Le 13e Trade Expo Indonésie a produit des transactions très satisfaisantes. Ces transactions atteignent 974,76 millions de dollars américains, ce qui équivaut à 2,71 trillions de roupias. La valeur de cette transaction a augmenté 7,2% de ceux de 2015. La réalisation est dérivée de transactions de 826,52 millions de dollars de produits et de 48,23 millions de dollars de services, ainsi que l'investissement de l'Indonésie à d'autres pays qui touchent 100 millions de dollars. Le Trade Expo Indonésie 2016 était un moment parfait pour le point tournant de performance nationale d'exportation. Le ministre du Commerce, Enggar Tiasto Lukita, lorsque la fermeture officielle des TEI 2016 à Jakarta International Expo Kemayoran, le dimanche, a dit qu'il était fier avec ses bons résultats. Il a expliqué qu'il y avait 15 567 visiteurs de 125 pays dans les événements de Trade Expo Indonésie. Selon Enggar Tiasto Lukita, l'enthousiasme des acheteurs était également encourageant. Il a aussi affirmé qu'il y avait de nombreux acheteurs qui viennent des pays non traditionnels tels que l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Les exportateurs indonésiens, ils étaient aussi divers, comme les petits et moyens commerces, les entreprises privées, les entreprises qui sont coordonnées par le gouvernement local. Ceci est un fait qui rend l'Indonésie aussi optimiste que la diversification de produits, non seulement en termes de marché de l'acheteur ou le pays d'origine, mais aussi en termes d'organisateurs, qui peuvent certainement renforcer la capacité des exportations nationales dans le futur. Il est dit que la réalisation de la diversification des produits, c'est vous dont ces produits d'intérêt, à savoir les meubles, l'électronique et les équipements électriques, les aliments transformés, les épices et les huiles essentielles. Autrement, l'enthousiasme des acheteurs se voue également des produits de café de spécialité ou café premium. À TEI 2016, les bois clairs ont obtenu aussi une réponse formidable. Pendant ce temps, ces produits qui sont les plus tentants au marché européen n'ont pas été beaucoup plus exposés. Engartia Stolokita a affirmé que les hommes d'affaires étrangères continuaient également leur activité en visitant un certain nombre de fabricants. Les acheteurs du Nigeria, la Jordanie et la Namibie, par exemple, ils poursuivaient leur voyage vers Petépindat à Bandung pour explorer l'achat de chars et des canons. C'est la raison de laquelle que l'on est sûr que le nombre de transactions de TEI en 2016 augmenterait. D'autre part, Engartiasto appréciait les réalisations des exportateurs indonésiens qui ont pu être professionnels et capables de convaincre les acheteurs étrangers à faire des transactions au milieu du ralentissement économique mondial. Cela signifie que les exportateurs indonésiens ont été en mesure de produire des produits qui répondent au goût ou intérêt du marché, très concurrentiels, à des prix compétitifs, même en comparaison avec des produits similaires en provenance de la Chine. La Direction générale du développement de l'exportation nationale du ministère du Commerce, Arlinda, a déclaré que les meubles étaient le produit le plus intéressant à TEI 2016. Les acheteurs les plus nombreux viennent de l'Inde, la Russie, le Japon et le Taïwan. Selon Arlinda, les produits des meubles sont devenus les plus en demande à l'exposition car les acheteurs étrangers connaissent les avantages des produits à base de bois en provenance d'Indonésie. Elle a ajouté, en plus des meubles, d'autres produits d'intérêt a compris les équipements électroniques et électriques, les aliments transformés, les épices et l'huile essentielle. De plus, l'enthousiasme des acheteurs a également visé pour des produits de café haut de gamme ou de café de spécialité de bois clair. Pendant ce temps, le chef du comité de développement des exportations, Handito Yuano, a dit que la continuité des succès de TEI doit être maintenue par les employeurs et les gouvernements. On espère que la qualité d'exportation est en mesure d'être dans un état stable dans le milieu de la situation économique mondiale qui n'a pas encore amélioré. L'une des mesures proposées par Handito Yuono pour stimuler la croissance des exportations est de soutenir tous les nouveaux exportateurs supplémentaires, surtout les petits et moyens commerces. Chers auditeurs, voilà la mise au point d'aujourd'hui. Au revoir.
L'Institut de radiodiffusion publique doit revitaliser les modèles du plan d'émission en concentrant les efforts sur le plan intellectuel pour la société. Le membre du Conseil d'administration publique de la Radio République Indonésia, Freddy Ndolu, mardi à Nusa Dua, Bali, a dit au moins trois tâches principales confiées à chaque contenu de diffusion. Ce sont d'éduquer, d'informer et divertir. Il encourage l'Assemblée des institutions de radiodiffusion publique des États parties à la 53e Assemblée générale de l'Union de radiodiffusion de l'Asie-Pacifique en 2016 pour accroître les efforts pour sensibiliser le public à travers des motifs de diffusion ayant de valeur éducative.
Revitalize World Public Service Broadcast. Ada tiga kata.
La revitalisation du service de radiodiffusion publique, trois mots clés, éduquer, informer et divertir. Ne nous concentrons pas notamment la divertir. Tout doit éduquer, éduquer la nation. Car dans l'éducation, on trouvera le divertissement. Notre tâche est éduquer la nation. Cela fait partie de la responsabilité sociale. notre responsabilité sociale alors que devons-nous faire dans cette assemblée pour revitaliser et redéfinir ces trois mots-clés? Nous concentrons-nous à tous les trois étant donné que les radiodiffuseurs privés sont déjà plus avancés. La mise en œuvre de la 53e Assemblée générale de l'Union de radiodiffusion de l'Asie-Pacifique est l'occasion d'échanger des idées et des expériences pour les pays participants. Les sujets qui seront la discussion principale, entre autres, sont sur les possibilités pour les radiodiffuseurs publics d'avoir les droits de diffuseur les compétitions sportives internationales, d'encourager la participation des femmes, y compris dans les festivals de la chanson à la télévision. Il y avait aussi la discussion sur les défis sur le changement climatique et la diversité des médias et les défis des radiodiffuseurs publics à l'ère digitale. Le vice-président Yusuf Kalla a dit que le président indonésien Joko Widodo avait prévu la visite en Thaïlande cette semaine. Le chef de l'État prononcera l'expression directe de condoléances sur le décès du roi Bhumipol Adulyadej en Thaïlande. Le vice-président Yusuf Kalla, au bureau de l'ambassade de la Thaïlande à Jakarta, a exprimé lundi que le roi Bhumipol a fait une relation étroite avec l'Indonésie depuis l'époque du président Sukarno. Il espère que les relations entre l'Indonésie et la Thaïlande ne seront pas changées, bien que le roi Bhumipol soit déjà décédé. Rapporté plus tôt, Bhumipol était décédé jeudi le 13 octobre 2016, à l'âge de 88 ans. Il est le monarque dont le règne durait le plus long dans le monde, après qu'il a fait installer le trône de la Thaïlande en 1946. Le membre de la commission Ang de la Chambre de représentants du peuple, Martin Hutabarat, attend l'armée nationale indonésienne pour construire des bases militaires pour garder la zone maritime de Natuna de la cible d'un pays étranger. Selon Martin Hutabarat, le gouvernement devrait déterminer vite la construction des bases dans la zone maritime de Natuna car il est très vulnérable aux perturbations par le trafic élevé de navires, le navire militaire et le navire commerciaux des pays étrangers entre les États. Il a souligné que même si Natuna n'est pas impliqué dans le conflit dans la mer de la Chine méridionale récemment, mais il est nécessaire d'anticiper l'impact de ce conflit. Martin Hutabarat espère que le ministère de la Défense et des avant-postes de forces armées construisent leur base pour garder les eaux de Natuna. En outre, l'Indonésie doit également fournir des informations à la communauté mondiale qui se concentre actuellement sur les actions des Chinois dans la mer de Chine méridionale par rapport que la zone maritime doit rester sécurisée et pacifique. Chers juridiques auditeurs, vous écoutez toujours les actualités du jour. L'Indonésie a très riche de ressources marines qui doivent être conservées au maximum. Celles-ci doivent bien adopter pour le bénéfice et le bien de l'humanité. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'Institut indonésien des sciences LIPI, Iskandar Zulkarnain, à propos de l'inauguration de la formation de la biodiversité marine et la santé de l'écosystème au centre de recherche d'océanographie LIPI à Ancol, Jakarta du Nord, lundi. La mer est une ressource précieuse, surtout non seulement pour l'humanité, mais sert aussi à notre planète. Nous sommes tributaires de la mer à partir de la nourriture que nous mangeons, du domaine des ressources halieutiques. La mer est également importante pour le transport, les loisirs et les activités culturelles. Donc, il est important pour nous de comprendre l'océan ou la mer afin de garder notre service de créateur. En outre, Iskandar Zulkarnain a dit que l'Indonésie, en tant que le pays d'archipel ayant le littoral tropical avec le long de plus de 54 000 km ou le deuxième plus long après le Canada, doit bien en profiter. De plus, selon Iskandar, l'Indonésie doit encourager la capacité des ressources humaines dans le domaine de la marine. Le dernier, l'Indonésie a envoyé la délégation dans la conférence des Nations Unies UN Habitat 3 à la relative au logement public et urbain qui est commencée 17 au 20 octobre 2016 à Quito, l'Équateur. Le ministre de la Travaux publics et du logement, M. Basuki Hadi Mulyono, comme chef de délégation indonésienne, a déclaré la tentation de développement de colonies et d'urbains à présent et l'avenir en Indonésie sera plus grave étant donné au niveau et le rythme de l'urbanisation immense. Le ministre Basuki Hadi Mulyono à Quito a déclaré lundi qu'à présent au moins de 53% de la population de l'Indonésie vivent dans la zone urbaine tandis que la zone rurale continue de connaître une croissance et certaines ont été transformées en villes. Il a aussi ajouté que la présence de la délégation indonésienne à Quito afin d'escorter le nouvel ordre d'Urbain. L'Indonésie est active depuis le début de la formulation du nouvel agenda urbain, y compris accueillir comme l'hôte de la troisième réunion du comité préparatoire à Surabaya 25 jusqu'au 27 juillet 2016. Il a expliqué qu'en Indonésie concerne la mise en œuvre de l'habitat 3 des Nations Unies pour l'établissement de l'orientation de la politique et le développement des programmes et des établissements urbains pour 20 années prochaines en Indonésie. Et aussi à savoir la création des villes qui sont inclusives, productives, vertes, intelligentes, résilient à la base de certains critères d'urbain et concepts durables. Le président Joko Widodo demande la réalisation des infrastructures électriques en Papouasie et de Papouasie occidentale doivent être terminées en 2019. Cela a été déclaré par le président lors de l'inauguration de 6 infrastructures d'électricité à Sentani à la ville Jayapura, Papouasie lundi. Selon le président Joko Widodo, la condition naturelle de l'île de Papouasie est dure, mais il n'est pas de raison pour terminer le projet d'infrastructure rapidement. Le président a demandé au président directeur de compagnie d'État électricité, PLN, d'avancer l'objectif d'achèvement des projets d'infrastructure d'électricité en Papouasie. Le président a également souligné l'accélération d'une infrastructure non seulement pour l'électricité, mais aussi en ce qui concerne la connectivité interdistrict. Chers juridiques auditeurs, c'était les actualités du jour.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, auditeurs de la Voix de l'Indonésie Menangter, vous avez écouté tout à l'heure les informations de la Voix de l'Indonésie. Et maintenant, c'est le tour de notre rubrique suivant, c'est le magazine de la culture.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, rencontrons-nous dans une rubrique quotidienne, le magazine culturel. Pour l'édition d'aujourd'hui, nous vous invitons à voyager à Bengkulu. Alors, restez toujours avec nous, la Voix de l'Indonésie, le service international de RRI. Outre par les zones courtes, vous pouvez également écouter notre émission sur www.rri.com. voe.co.id. Chers auditeurs, pour ceux qui aiment l'aventure et visitent les lieux touristiques naturels, essayez de visiter la cascade de Batu Betiang à Bengkulu. Il y a beaucoup de beauté offerte à cette cascade, comme la beauté naturelle et la clarté de l'eau qui n'est pas contaminée. La cascade de Betiang a également une cité, à savoir l'étendue de murs en pierre en forme de grands blocs de pierre rectangulaires qui sont disposés d'une manière ordonnée. Sur la base de l'histoire, c'est l'héritage Sipahitlida, ou en français une langue amère, qui a construit délibérément des structures en pierre. La construction est inachevée. Son enfant est mort. Sipahitlida est le surnom d'un prince nommé Serunti qui a des pouvoirs surnaturels pour condamner quoi que ce soit à être la pierre. En dehors du flok-flok qui vient du sud de Sumatra, il y a aussi des gens qui croient que la formation de la structure en pierre est causée par le processus pur de formation naturelle. La cascade de Batu Betiang est située dans la zone du parc national Kerinci Seblat, TNKS. Il y a des chemins qui peuvent être traversés avec différents niveaux de difficulté de terrain. Le premier chemin, on passe TNKS du ressort de Bukit Reges. Pour ce chemin, les touristes doivent utiliser les services d'un guide touristique qui maîtrise vraiment les conditions difficiles de voyage. Le deuxième chemin est du Amo Marasi, le village de Babakan Baru, sous-communauté de Bour. Contrairement au premier chemin, ce chemin est plus facile, de plus peut être accessible en vélo de montagne et en vélo de saleté. Sur les chemins existants, nous choisissons simplement quel chemin que nous allons prendre, dépend de notre préparation et désir. C'est bien sûr que chaque chemin offre la sensation d'aventure différente. Chers auditeurs, dans la langue locale, Betiang signifie un pôle vertical robuste. Cette cascade est située précisément dans le Amo Merasi, le village de Babakan Baru, la résidence de Rejang Lebong, en province de Bengkulu. La cascade, à la distance de 25 km du centre-ville de Curup, Rejang Lebong, ou seulement environ 7 km de la zone résidentielle la plus proche. Chères auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « La cascade Batu Betiang ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Chers auditeurs de la Voix d'Indonésie, vous avez écouté tout à l'heure la rubrique ou le magazine de la culture. Maintenant, c'est le tour de notre rubrique suivante. Comme chaque mardi, c'est le magazine Apprendre la langue indonésienne. Et nous espérons écouter notre programme pour encourager et pour parfaiter votre langue indonésienne. Et si vous avez bien parlé indonésien, allez visiter l'Indonésie.
Pour comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme « Allez, apprendre l'indonésien ».
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique « Apprendre l'indonésien », un programme qui vous introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et qui vous guide de parler indonésien. Le sujet d'aujourd'hui est Rumah Baru Saya, ou en langue française, ma nouvelle maison. Tout d'abord, je vais introduire le vocabulaire et les expressions reliées au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Rumah Baru. Rumah Baru. en français, nouvelle maison. Taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak. En français, jardin d'enfants. Sekolah dasar. Sekolah dasar. En français, école primaire. Sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas. En français, lycée. Kantor pos. Kantor pos. En français, bureau de poste. Bank. Bank. En français, banque. Kantor polisi. Kantor polisi. En français, poste de police. Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. En français, pompier. Sekitar. Sekitar. En français, autour. Pasar tradisional. Pasar tradisional. En français, marché traditionnel. Mall. Mall. En français, centre commercial. Besar. Besar. En français, grand. Bioscope. Bioscope. En français, cinéma. Tidak jauh. Tidak jauh. En français, pas loin. Pompa bensin. Pompa bensin. En français, station d'essence. Stratégis. Stratégis. En français, stratégique. Dua universitas. Dua universitas. En français, deux universités. Ternama. Ternama. En français, connu. Jalan kaki. Jalan kaki. En français, marché. Membeli. Membeli. En français, acheter. Telepon genggam. Telepon genggam. En français, téléphone portable. Pusat penjualan. Pusat penjualan. En français, centre de vente. Pabrik. Pabrik. En français, usine. Pelabuhan. Pelabuhan. En français, port. Udara. Udara. En français, air. Tidak bersih. Tidak bersih. En français, pas propre. Panas. Panas. En français, chaud. Pengap. Pengap. En français, étouffant. Bahagia. Bahagia. En français, heureux. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre Rumah Baru Saya ou en français Ma Nouvelle Maison. Comme d'habitude, je vais prononcer lentement phrase par phrase deux fois. Vous pouvez répéter après moi. C'est une conversation entre A et B au bureau. A. Saya senang tinggal di sini. Saya senang tinggal di sini. En français, Je suis heureux de rester ici. Karena di sini fasilitasnya lengkap. Karena di sini fasilitasnya lengkap. En français, parce que les infrastructures ici sont complètes. Ada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sampai dengan sekolah menengah atas. Ada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sampai dengan sekolah menengah atas. En français, il y a des jardins d'enfants, l'école primaire jusqu'au lycée. Kantor pos, bank, kantor polisi, dan juga pemadam kebakaran. Kantor pos, bank, kantor polisi, dan juga pemadam kebakaran. En français, les bureaux de poste, la banque, la poste de police et les pompiers. B. Di sekitar rumah kamu juga ada pasar tradisional dan mal besar, bukan? Di sekitar rumah kamu juga ada pasar tradisional dan mal besar, bukan? En français, autour de votre maison, il y a aussi un marché traditionnel et un grand centre commercial, n'est-ce pas? Di sana juga ada bioskopnya. Di sana juga ada bioskopnya. En français, il y a aussi un cinéma. Bahkan tidak jauh dari tempat tinggal kamu juga ada pompa bensin. Bahkan tidak jauh dari tempat tinggal kamu juga ada pompa bensin. En français. En fait, pas loin de l'endroit où vous vivez, il y a aussi une station d'essence. Wah, daerah tempat tinggal kamu strategis sekali. Wah, daerah tempat tinggal kamu strategis sekali. En français. Ben, la zone où vous habitez est très stratégique. A. Ya, bahkan rumahku juga tidak jauh dari dua universitas ternama. Ya, bahkan rumahku juga tidak jauh dari dua universitas ternama. En français, oui, même elle n'est pas loin de deux universités connues. B. Kalau kamu mau membeli telepon genggam juga mudah. Kalau kamu mau membeli telepon genggam juga mudah. En français, si vous voulez acheter un téléphone portable, c'est aussi facile. Karena dekat dengan pusat penjualan telepon genggam, bukan? Karena dekat dengan pusat penjualan telepon genggam, bukan? En français, parce que c'est proche du centre de vente de téléphones portables, n'est-ce pas? A. Dahulu rumah saya tidak jauh dari pabrik dan pelabuhan. Dahulu rumah saya tidak jauh dari pabrik dan pelabuhan. En français, au passé, ma maison n'était pas loin de l'usine et du port. Udaranya selain tidak bersih, panas, dan saya merasa pengap. Udaranya selain tidak bersih, panas, dan saya merasa pengap. En français, l'air n'est pas propre et chaud, et je me sens étouffant. B. Semoga di rumah baru ini kamu dan keluarga lebih sehat dan lebih bahagia. Semoga di rumah baru ini kamu dan keluarga lebih sehat dan lebih bahagia. En français, j'espère que dans cette nouvelle maison, vous et votre famille soyez en meilleure santé et plus heureux. A. Kalau ada waktu luang, datanglah ke tempat saya. Kalau ada waktu luang, datanglah ke tempat saya. En français, si vous avez du temps libre, venez à ma place. Saya tunggu kedatangan kamu. Saya tunggu kedatangan kamu. En français, je vous attends. Bon, chers amis, c'était la rubrique « Apprendre l'indonésien » pour ce soir. Que ce programme soit utile pour vous qui voulez connaître la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidélité. À demain.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers jurites auditeurs de la voix de l'Indonésie en Angleterre, vous avez écouté tout le programme de la voix de l'Indonésie, édition de mardi. Et vos équipes de ce soir, Mama Suartono, Wima et notre technicien, vous disons bonsoir, rendez-vous demain, même heure, même fréquence. A bientôt, au revoir, sampai jumpa.
Radio République Indonésie, Service international, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, Service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écoutez l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.